Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est donc parti pour 2 heures d'infos avec vous au 3210 et avec l'ensemble de la rédaction. Ce soir à la une, 300 000 professionnels de santé refusent toujours la piqûre. Il reste quelques heures seulement avant la mise en place de l'obligation vaccinale pour les soignants. Les premières lettres de suspension partiront demain matin. Dans ce contexte, qui sont les derniers récalcitrants? Est-ce que notre système de soins risque la désorganisation? La brigade RTL va nous éclairer. Et puis notre invité ce soir est Arnaud Fontanet, membre éminent du conseil scientifique. Alors on abordera aussi avec lui d'un côté les bons chiffres de l'épidémie, de l'autre la crainte d'un rebond à cause de l'école. En bref, à quand le retour à une vie normale? Nous allons prendre le temps ce soir sur RTL de développer tous ces dossiers. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, ces violentes intempéries dans le Gard à la mi-journée. Pluie, vent, grêle, la montée des eaux a été soudaine sur l'autoroute A9, comme en témoigne cet automobiliste au micro de nos confrères d'M6.
C'est vraiment monté très très vite, la voiture a commencé à soulever, à partir. Donc bah nous on a pris ce qu'on pouvait, nos affaires, et puis on s'est sauvés. Nous on était trois dans la voiture, j'ai dit au collègue derrière, prends les sacs, prépare-toi. Moi j'ai éteint le contact. On est sorti par les fenêtres parce qu'on pouvait plus voir les portes. On a vraiment eu peur, ouais.
Ce soir, 2 personnes sont portées disparues, nous serons sur place. Dans ce journal aussi, document RTL, la prise de parole prudente de Teddy Riner sur la vaccination. Et puis, plainte en ligne, enquête plus rapide, le détail des annonces d'Emmanuel Macron à la mi-journée sur la sécurité. Les courses, tout à l'heure dans le Quintet Plus à Saint-Cloud, il fallait jouer le 9, le 3, le 14, le 1 et le 13.
À 18h40, tout à l'heure, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu, vous le savez, sous un autre œil avec Cyprien Signy et sa fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ce soir?
Ce soir au menu, viande sans viande et poisson sans poisson. On décortiquera l'alimentation de demain. Et on vous parlera de vaches capables d'aller aux toilettes toutes seules. C'est fascinant.
Merci Cyprien, on vous retrouve tout à l'heure. Donc 18h40, le rendez-vous est pris. Autre rendez-vous, 19h15, tout à l'heure, on va refaire le monde du débat de l'opinion. Vous le savez, autour d'Éric Brunet. Ce soir, au programme, l'obligation vaccinale et bien entendu, le Beauvau de la sécurité.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Il est tombé jusqu'à 2 mois de pluie en quelques heures, donc c'est un véritable déluge qui s'est abattu ce matin sur le Gard.
Les 2 personnes sont portées disparues selon le dernier bilan de la préfecture. On va retrouver notre envoyé spécial sur place dans un instant. D'abord avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir.
Le point sur ce qui s'est passé, parce que le Gard a été passé brièvement en vigilance rouge alors que les intempéries avaient déjà commencé. Il y avait une alerte orange. C'était vraiment imprévisible ce qui s'est passé ce matin.
Il faut savoir que les modèles satellites savent identifier des situations orageuses, mais ça reste difficile de cibler les régions bien précises, surtout quand il s'agit de cellules orageuses stationnaires. Hier, on savait qu'il y avait les risques de cellules stationnaires, mais pas exactement où, entre l'Hérault et le Gard. Et ce matin, à 6h, vous l'avez dit, les départements ont été mis en vigilance orange. Et c'est à 11h30, en fait, suite à un important cumul de précipitations déjà tombées, en prévision également de ce qui allait arriver, qu'il a été décidé de passer le Gard en vigilance rouge. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les modèles progressent, mais gardent leurs limites malgré tout, surtout quand il s'agit de phénomènes de petite échelle à caractère stationnaire comme ce qu'on a vécu ce matin.
En un mot, Peggy, à quoi il faut s'attendre dans les prochaines heures sur la région?
Encore de la pluie et surtout le Gard reste en vigilance orange, orage, inondation et crue parce qu'on attend un nouvel épisode pluvio-orageux demain matin.
Merci beaucoup Peggy. On va donc rejoindre tout de suite notre envoyé spécial sur place à Uchaud près de Nîmes. C'est l'épicentre en quelque sorte de ces intempéries. On rappelle le bilan, hein. 2 personnes sont portées disparues dans la région. Étienne Baudu, bonsoir. Vous êtes parvenu à vous rendre tant bien que mal sur place pour RTL.
Ah oui, vraiment une circulation difficile. Les autoroutes A54 et A9 ont été très longtemps coupées, toutes les voitures. Et les poids lourds se sont retrouvés sur les routes secondaires, vite engorgées, d'autant que plusieurs portions de ces routes étaient submergées. Le village de Uchaud, ce soir, est un peu coupé du monde. De nombreux habitants sont encore en train d'évacuer l'eau qui a envahi leur rez-de-chaussée. Dans la zone artisanale, Zouir est le patron d'un garage où il vend des voitures, avec aussi un petit atelier. Il a été surpris par la rapide montée de l'eau, qui chez lui est arrivé par le plafond.
Quand il y a eu les grosses pluies, là, c'était vraiment une cascade d'eau. Tout le toit il s'est effondré là-bas de l'intérieur. Tous les canapés, la salle de repos, tout est parti en vrille. Tous les bureaux ils se sont imbibés d'eau jusqu'à 50-60 cm. Vers 11h30, il y a une grosse vague qui est venue de l'arrière. ça a tout rempli. Et dans mon garage, c'est pareil. On a tous les outils qui baignent dans l'eau. Une petite cabine de peinture, tout est mort. Est parti.
Alors de leur côté, les sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Les hélicoptères de la sécurité civile ont opéré une vingtaine d'élitreuillages pour mettre en sécurité des personnes, dont certains conducteurs bloqués sur la 9. Ce soir et cette nuit, les sapeurs vont effectuer de nombreuses reconnaissances dans des zones encore sous l'eau qui, par endroits, stagnent. Il faudra, comme ils le disent, aller lever les doutes en espérant qu'il n'y ait pas de macabre découverte.
Étienne Baudua a eu chaud dans le Gard pour RTL. Vous parliez de la 9. Hein, la circulation reste coupée autour de Nîmes. Le trafic ferroviaire est interrompu. 12 départements ce soir sont toujours en alerte orange. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur doit se rendre sur place dans les prochaines heures. Ce chiffre, à présent, 300 000, comme le nombre de professionnels de santé qui n'ont pas encore été vaccinés.
Et pourtant, nous sommes à quelques heures seulement de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Autrement dit, à partir de demain, ces personnels réticents au vaccin pourront être suspendus sans rémunération s'ils n'ont pas reçu au moins une dose.
Une perspective à laquelle se sont préparés apparemment les soignants qui ont manifesté aujourd'hui à l'appel de la CGT Santé, notamment à Paris. Yannick est aide-soignant dans le Val-de-Marne et il se dit prêt à perdre son boulot.
C'est pas qu'on veut pas travailler, on veut travailler, mais on veut pas qu'on nous oblige à nous vacciner. Moi j'estime que le PCR que je fournis tous les jours quand je vais travailler, il est suffisant. Donc je sais pas ce que le gouvernement essaie de faire. Pour moi, il continue sa logique de fermeture de lit. Mais au final, c'est qui va payer? Parce que moi je vais peut-être perdre mon emploi, mais vous perdez la santé. Vous le voyez peut-être pas tout de suite, on en reparle dans 5 ans. Quand moi je me serai reconverti en boulanger, en pâtissier, en livreur de pizza, mais il y aura plus de santé en France.
Plus de santé en France, dit donc cet aide-soignant au micro RTL de Nathan Brocard.
En tout cas, la menace sur la continuité des soins existe, d'autant que certains établissements sont déjà sous tension.
Oui, Patrick Hisson, vous vous êtes rendu pour RTL dans un EHPAD de l'Escure d'Albigeois près d'Albi. La majorité des résidents ont été contaminés ces dernières semaines. Deux d'entre eux sont même décédés. Hein.
Oui, dans cet EHPAD où tout le monde se demande comment le virus a pu pénétrer, le directeur Éric Placide avance quelques hypothèses.
Même si c'est infime, on a 4-5 agents qui ne sont pas vaccinés, bon, qui sont très prudents et jusqu'à présent on avait évité la contamination. Ensuite, le non-respect de gestes barrières par certaines familles, il faut bien le dire aussi.
Devant cette épreuve où malgré tout, grâce au vaccin, une hécatombe a pu être évitée, le personnel fait preuve d'une grande solidarité à l'image de Karine, aide-soignante.
On revient sur les jours de repos, on revient le soir quand on travaille du matin, on essaye de prendre en charge les résidents au mieux possible.
Et cet investissement exemplaire est d'autant plus nécessaire qu'une tension supplémentaire vient s'ajouter avec les 4 salariés non vaccinés et absents à partir de demain. Cathy est elle aussi aide-soignante.
Ça fait 4 soignants en moins. Il y a des soignants et des agents d'entretien. Mais automatiquement, ces personnes-là sont plus sur les plannings. Donc il va falloir combler ce manque.
Un remplacement en EHPAD qui est déjà très compliqué en temps normal, ajoute le directeur de l'EHPAD de l'Escure d'Albigeois.
Un reportage signé Patrick Hisson à l'Escure d'Albigeois.
Tiens, évoquons toujours cette campagne de vaccination parce que ce sont des mots qui étaient attendus. Vous en souvenez peut-être ici même dans ce studio sur RTL, Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, avait demandé à Teddy Riner de s'engager pour la vaccination face aux réticences de la population des Antilles. Document RTL ce soir, le judoka guadeloupéen s'exprime enfin au micro de Jean-Michel Rascol.
Moi je me suis vacciné parce que je n'avais pas trop le choix, il fallait que je me prépare tranquillement pour les Jeux Olympiques. Après c'est des discours, c'est compliqué, chacun a son point de vue. Il y a un passif très douloureux aussi concernant la Guadeloupe, donc on peut en discuter pendant des heures et des heures. Je crois que chacun est libre de faire son choix. Maintenant, moi je suis pas là pour dire vaccinez-vous ou pas. Je crois que c'est une décision qui doit être vraiment individuelle pour tous.
Teddy Riner au micro RTL de Jean-Michel Rascol face au Covid. Notez que la vaccination au Pfizer va être étendue pour les médecins libéraux et les pharmaciens. Commande possible dès lundi et injection ensuite dès le 1er octobre.
Allez, une pause dans ce journal et ensuite Emmanuel Macron face aux forces de l'ordre et puis un nouvel hommage à Johnny. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Quête. Julien Sellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, 18h10, la suite de votre journal Marion Calais. De la droite aux insoumis, toute l'opposition dénonce un discours de campagne. Emmanuel Macron face aux forces de l'ordre aujourd'hui pour des annonces sur la sécurité.
Clôture du Beauvau de la sécurité à Roubaix, à l'école nationale de police.
La première exigence et ambition, plus de bleu sur le terrain. Ce qu'attendent nos compatriotes, c'est en effet une présence accrue de policiers et de gendarmes sur la voie publique. Parce que c'est rassurant pour eux et dissuasif pour les délinquants.
Des forces de l'ordre donc sur le terrain et des annonces aussi qu'on va passer en revue avec vous, Guillaume Chiez, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, des nouveautés au plus près du quotidien des Français.
Oui, à commencer par la possibilité de déposer plainte en ligne dès 2023. Aujourd'hui, on ne peut formuler qu'une pré-plainte, une sorte de rendez-vous amélioré avant de se rendre au commissariat ou dans une gendarmerie. Autre nouveauté, côté contrôle des forces de l'ordre, en plus des inspections qui existent déjà, le chef de l'État veut une instance par elle sera composée de sénateurs et de députés. Emmanuel Macron a également dressé un constat. Il y a un désintérêt de la police pour les enquêtes. Les procédures sont trop lourdes, les horaires trop étendus. Conséquence, chaque commissariat a des dizaines de dossiers non traités en attente. Pour réduire ce stock, le président promet des greffiers, concrètement du personnel administratif, pour accélérer le traitement d'un dossier.
Alors, des nouveautés dans ce discours, Guillaume, mais aussi beaucoup de confirmations.
Oui, première confirmation. Il y aura bien, d'ici la fin du quinquennat, 10 000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. Leur matériel, le parc automobile, les bâtiments seront également renouvelés. Enfin, autre confirmation concernant la formation initiale des policiers. Moins de 2 ans après l'avoir raccourci à 8 mois, Emmanuel Macron a décidé que celle-ci devrait à nouveau durer 1 an.
Précision signée Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera demain matin l'invité d'Alba Ventura sur RTL. 7h40, il dialoguera avec vous les auditeurs au 32-10 dès 8h15.
Comme un air de déjà-vu, des bikers dans Paris et des chansons de Johnny qui résonnent.
Hommage à Johnny Hallyday aujourd'hui pour l'inauguration d'une place en son nom devant Bercy.
Une sculpture a également été dévoilée, un mât en forme de manche de guitare et une moto à son sommet. Isabelle est venue spécialement du Loiret pour la découvrir.
C'est la reconnaissance non seulement de la ville de Paris, mais aussi de toute la France. Un artiste extraordinaire. La preuve, c'est que les gens sont là. Bah, c'est la symbolique de Johnny. Le manche de guitare et la Harley, c'est son univers. Alors après, effectivement, on peut mettre des fleurs bleues, mais je ne pense pas que ça soit très représentatif. Je suis pas toute seule, je suis avec mon frère et ma belle-sœur et voilà, c'est des histoires de famille aussi. C'est un lien et Dieu sait qu'aujourd'hui dans la société, ben des liens on n'en a pas beaucoup, de moins en moins, et ça c'est un vrai lien.
Propos recueillis par Steven Bellery pour RTL. Et cette journée hommage n'est pas terminée. Grand concert ce soir à Bercy à partir de 21h. Cette soirée aussi qui se déclinera en mode foot avec la Ligue des Champions ce soir. Lille qui commence au stade Pierre-Mauroy face aux Allemands de Wolfsburg. Match à suivre en fil rouge sur RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Plus fort que Washington ou Buenos Aires, Grigny dans l'Essonne, un peu plus de 28 000 habitants, ne rigolez pas, ville la plus pauvre de France, mais son maire a été désigné meilleur édile du monde.
C'est chic.
Ex aequo avec le maire de Rotterdam aux Pays-Bas, un titre décerné par la City Mayor Foundation qui salue le combat du communiste Philippe Rio contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Hier d'ailleurs, le maire inaugurait ou lançait en tout cas officiellement ses petits déjeuners gratuits. À l'école, il promet de ne pas prendre le melon après ce titre.
On en parlait d'ailleurs hier soir, effectivement, dans le journal de 19h. Merci beaucoup, Marion. À tout à l'heure. Le temps, Peggy. Alors, on va revenir sur la situation du Gard, où il est donc tombé jusqu'à 2 mois et demi de pluie en seulement 3 heures. Est-ce que cette situation va s'améliorer dans les prochaines heures? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles précipitations?
Il y aura de nouvelles précipitations. Pour l'instant, ça va mieux. On attend encore des précipitations dans la nuit, mais le Gard reste en vigilance orange aux orages, puis inondations et crues, puisqu'un nouvel épisode pluvieux orageux est attendu demain matin.
Et pour le reste du pays?
On a encore 11 départements en vigilance orange entre Midi-Pyrénées et Massif central. Et demain, on a des averses orageuses le matin entre le Limousin et l'Alsace, entre les Pyrénées et le Grand Est l'après-midi, avec un axe plus marqué entre la vallée du Rhône et le Jura. De part et d'autre, un temps plus calme, avec encore des averses et ce sera plus sec sur le nord-nord-ouest. Tout ça sous des températures qui baissent légèrement mais qui sont encore douces, comprises entre 20 à Caen et 31 degrés à Marseille, 23 à Paris.
Merci Peggy. Dans un instant, RTL Soir continue avec la Brigade RTL pour vous servir et notre invité Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique. Pendant un quart d'heure, nous allons essayer de nous projeter sur les semaines à venir. On va parler de notre quotidien face au virus avec de nombreuses questions concrètes. Comment gérer la suspension des 300 000 professionnels de santé non vaccinés? Est-ce qu'on aperçoit le début d'un retour à une vie normale? Est-ce qu'il faut craindre l'effet rentrée des classes? On va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Toutes ces questions, à tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 18h19, RTL Soir continue. Et donc ce soir, le compte à rebours, vous le savez, est enclenché. Nous sommes à quelques heures de l'obligation vaccinale pour les soignants. On vous le rappelle, 300 000 professionnels de santé n'ont toujours pas reçu la moindre dose. Nous sommes aussi à un carrefour parce que d'un côté, les chiffres de l'épidémie s'améliorent. De l'autre, il y a la crainte d'un énième rebond à cause de la rentrée scolaire. Donc ce soir, sur RTL, nous allons prendre le temps d'aborder tous ces dossiers avec notre invité. Bonsoir Arnaud Fontanet.
Bonsoir.
Vous êtes un membre éminent du conseil scientifique, épidémiologiste, chercheur au CNAM et à l'Institut Pasteur de Paris. Juste avant d'échanger ensemble, on va détailler ce chiffre marquant de la soirée, 300 000 professionnels de santé toujours non vaccinés, juste avant le gong en quelque sorte, parce que les premières lettres de suspension vont partir demain matin. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Dans le détail, dites-nous où se trouvent ce soir encore les récalcitrants.
Alors d'abord dans les EHPAD, où manquent à l'appel 11% de professionnels de santé, ça représente 30 000 personnes. Des chiffres qui pourraient bouger, puisque cet état des lieux date de dimanche, que beaucoup d'indécis ont pu quand même franchir le pas. Le CINERPA, principal syndicat des maisons de retraite privées, estime qu'il n'y aura finalement que 2% de contrats suspendus, soit environ 6 000 salariés. À l'hôpital, là aussi, 11% de personnel non vacciné, c'est 2 points de moins que la semaine précédente, avec des situations très disparates selon les régions. Les plus tendues, c'est en PACA et en Occitanie.
Forcément, ces suspensions posent des problèmes d'organisation. Tiens, un exemple, un témoignage d'une auditrice RTL. Claire nous a appelé au 3210, elle dirige une clinique à Lyon. Écoutez-la.
Les conséquences, c'est d'avoir des difficultés à faire des plannings parce que nous avons déjà un manque de 18 infirmiers avant l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale pourra augmenter de à peu près 50% ce manque, c'est-à-dire à peu près 8 personnes de plus. Donc nous avons des plannings pour lesquels il est impossible de remplir des cases. Ça va être compliqué.
Le planning de Claire qui a appelé RTL, c'est très concret, Odile. Est-ce que notre système de santé peut fonctionner avec 300 000 personnes suspendues, mises à l'écart?
Alors très clairement, tout ne va pas s'effondrer demain 15 septembre. Une majorité d'hôpitaux, par exemple, affiche des taux bien supérieurs à 90% de personnel ayant reçu au moins une dose. C'est le cas de la PHP Hôpitaux de Paris, des Hospices Civils de Lyon, du CHU de Toulouse, entre autres. Tout dépend en fait des catégories de personnel qui manquent à l'appel. C'est évidemment moins compliqué, moins complexe de remplacer un chargé de logistique, un informaticien, un agent d'accueil qu'un soignant dans un contexte déjà de tension sur les effectifs. Exemple, à l'hôpital de Montélimar où l'absence de 3 médecins anesthésistes sur 6 va entraîner la fermeture de blocs opératoires et la déprogrammation de 150 interventions sur une semaine. Autre exemple, à l'hôpital de Nice, où la seule parade pour contrer la défection des soignants dans des services déjà sur le fil, eh bien c'est la fermeture de lits.
Merci beaucoup Odile. Arnaud Fontanet, je reviens vers vous, vous l'un des cadres du conseil scientifique. Est-ce qu'on a atteint un plafond en termes de vaccination chez les soignants? On a l'impression que les chiffres n'évoluent quasiment plus, malgré l'obligation à venir.
Alors on verra ce qui va se passer avec l'obligation à venir. Moi, ce que je voudrais dire à ces soignants, c'est vraiment vaccinez-vous. D'abord, vous avez tout intérêt à titre personnel à vous vacciner. Les vaccins sont sûrs et ils sont efficaces. Et puis, je prends l'exemple des EHPAD que vous citiez. Avec un variant aussi transmissible que le Delta, il va être très difficile de vous protéger contre l'infection si vous n'êtes pas vacciné. Et vous mettez à risque des personnes âgées fragilisées, chez qui l'efficacité vaccinale, du fait de leur âge, peut être moins bonne et qui, du coup, pourraient être en danger. Alors, vraiment, je leur demande, prenez cette opportunité de vous vacciner, c'est très important pour vous et puis pour les malades qui vous entourent.
Vous qui scrutez les courbes de l'épidémie, 25% de contamination en moins sur une semaine, 10 000 cas par jour en moyenne environ en ce moment. Est-ce que la quatrième vague est terminée? On a entendu Karine Lacombe ce matin, qui est aussi membre du conseil scientifique, nous dire on est en train de sortir de l'épidémie, c'est en train de devenir une histoire de spécialiste. Est-ce que vous partagez son point de vue?
Alors, on n'est pas au bout de la fameuse quatrième vague, etc. Enfin, c'est un peu difficile de parler parce qu'on est quand même dans une situation beaucoup plus complexe qu'avant où quand un nouveau variant arrivait, on savait qu'il nous arrivait dessus, on allait avoir une vague très difficile à stopper. Maintenant, avec la vaccination, avec 80-90% de la population immunisée, on est vraiment capable de moduler finalement les montées et les descentes en serrant un petit peu les vis. Et il faut, là je crois qu'actuellement on vit un moment, et c'est toute l'Europe d'ailleurs, à part peut-être la Suisse et l'Angleterre où ça remonte un petit peu, mais toute l'Europe vit un moment où on voit les courbes descendre, un peu comme l'année dernière en septembre, où rappelez-vous, on avait un moment où on s'est dit, tiens, on a absorbé la rentrée scolaire, universitaire, professionnelle, on a trouvé la façon. Et puis voilà, fin septembre, un coup de froid et deuxième vague qui redémarre. Et là, je pense que quand le temps va changer, effectivement, quand ça va se refroidir, il y a vraiment un risque de redémarrage. Alors, les conditions sont là, effectivement, pour une circulation plus active du virus. Il y a la population des moins de 12 ans qui n'est pas immunisée.
Il y a c'est encore... ça, on n'a pas encore, quelque part, l'effet retour en classe. C'était il y a même pas 15 jours, la rentrée des classes. On rappelle qu'il y a 3000 classes fermées au dernier pointage hier, donc c'est 0,56% des classes. On voit que ça augmente et on se souvient des projections cet été de l'Institut Pasteur où vous travaillez qui tablait sur potentiellement 50 000 enfants contaminés chaque jour en septembre. Est-ce que ces projections sont toujours valables ?
Alors en fait, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. La circulation du virus, elle est au ralenti actuellement pour des raisons qu'on ne maîtrise pas complètement et qui peuvent être dues en grande partie à des facteurs environnementaux, climatiques. Ça va redémarrer, je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne suis pas météorologiste. Mais
de quelle ampleur, on ne peut pas savoir.
On sait tous qu'en automne et en hiver, le temps se refroidit et donc ça va redémarrer. Il y a un potentiel de redémarrage parce qu'il y a une population non vaccinée chez les moins de 12 ans, parce qu'il y a dans la population adulte des personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Et du coup, il faut s'attendre à ce que ça reparte. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça viendra avec des facteurs climatiques. En revanche, contrairement à l'année précédente, je ne m'attends pas à ce qu'on ait besoin d'aller jusqu'à des couvre-feux, des confinements pour stopper cette vague épidémique, parce qu'on est avec 80% de la population qui est déjà immunisée, vaccinée ou qui a été infectée. Et du coup, il va être quand même plus facile de stopper la montée quand elle arrivera, avec des ajustements sur des mesures existantes. Mais je ne pense pas qu'on aura besoin d'aller à un niveau de couvre-feu ou de confinement.
Qu'il faut, selon vous, parce que pour l'instant, le pass sanitaire il est en vigueur jusqu'au 15 novembre. Il se pose la question de l'après 15 novembre. Est-ce qu'il le faudra encore pour aller parfois travailler ? On a entendu le cas des soignants, pour aller au resto, pour aller au ciné. On sait qu'au Danemark, où on a à peu près les mêmes chiffres de vaccination que les Danois, on vient d'enlever le pass sanitaire. Est-ce qu'on va suivre l'exemple danois ou est-ce que, selon vous, il faut le maintenir pour éviter un éventuel rebond ?
Alors, le Danemark a, depuis le début de cette épidémie, remarquablement géré la situation. Et ils sont à plus de 100% de vaccinés. Ils sont à 100% de vaccinés.
Là, ça devient 100%, c'est très très bien.
On est d'accord. Ils sont à 100% de vaccinés chez les plus de 80 ans, qui est quelque chose qu'on n'a malheureusement pas réussi à faire en France. Et ils sont quand même dans une situation plus favorable. Hein. Après, ils ont tout à fait laissé entendre que si l'épidémie repartait, ils remettraient en place des mesures. Hein. Mais pour l'instant, ils se permettent effectivement de lever toutes les mesures. Ils sont dans une situation plus favorable que nous. Je pense que ce serait prématuré en France, une fois de plus pour les raisons que je vous ai données. Hein. Il y a encore un potentiel de circulation de virus qui ferait que si ça redémarre, on peut se retrouver un peu en difficulté. Mais une fois de plus, on sera capable de réagir beaucoup plus précocement et efficacement que les mois précédents, parce qu'on a heureusement une population largement vaccinée.
Mais est-ce que vous êtes inquiet sur des territoires précis ? Je pense aux Antilles, où la couverture vaccinale est pour l'instant toujours très faible, un tiers environ de la population avec deux doses. Les quartiers nord de Marseille, qui ont à peu près ces chiffres aussi. Est-ce que ce sont des territoires, quelque part, qui vous inquiètent et qui peuvent être à l'origine d'une potentielle nouvelle vague ?
Alors, je suis inquiet pour ces territoires eux-mêmes, pas sur le fait qu'ils puissent être l'origine d'une nouvelle vague qui toucherait le reste de la France métropolitaine, mais pour ces territoires eux-mêmes, je suis évidemment inquiet. On a eu malheureusement cet été la démonstration aux Antilles de ce qui se passe quand un variant aussi transmissible que le Delta arrive en population. Il est deux fois plus transmissible que le virus de 2020, il est quatre fois plus létal. Et dans une population qui était peu vaccinée, à peu près 20% de la population de Martinique ou de Guadeloupe était vaccinée au début de l'été. Vous avez vu la catastrophe sanitaire que ça a entraîné. Donc il faut absolument, effectivement, que la couverture vaccinale s'améliore dans ces territoires. Je pense à La Réunion, je pense aussi à Mayotte, par exemple. Mayotte qui, malheureusement, a une couverture vaccinale qui est encore insuffisante. Alors les derniers chiffres que j'ai en tête sont un peu anciens, ils étaient à 30%, j'espère que c'est plus aujourd'hui. Mais le variant Delta vient d'y arriver. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais il y a une courbe ascendante. Et c'est maintenant qu'il faut, pour eux, mettre des mesures pour freiner le Delta et puis vacciner. C'est très important.
Parlons du quotidien des Français, parce qu'on a appris à vivre avec le vaccin, avec le pass sanitaire et avec le masque. Je le porte en studio, vous le portez en studio. Mais on sait que ce n'est pas le cas de tous les studios de radio et de télé aujourd'hui. Dans les entreprises où nos auditeurs travaillent au bureau, il y a parfois un peu de lassitude, un peu de relâchement. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ? Dans un bureau, dans un open space, on garde le masque même si tout le monde est vacciné autour de soi ?
Alors, malheureusement, ce qu'on sait maintenant par rapport à la vaccination, c'est qu'elle protège toujours très bien contre l'hospitalisation. Ça, c'est le fait fondamental et c'est en ça qu'elle est absolument essentielle. Avec du recul, on a quand même 90% de protection contre les hospitalisations chez les personnes vaccinées. C'est énorme. Mais quand on s'éloigne de la deuxième dose du vaccin, à partir de 3-4 mois, on a une diminution contre la capacité, enfin contre l'infection elle-même. Mmh. Et de fait, même si vous êtes vacciné, vous n'êtes pas complètement protégé contre l'infection. Alors, ça peut ne pas être un problème pour vous, parce que si vous êtes vacciné, vous n'allez pas faire nécessairement une forme grave, mais vous pourriez transmettre ce virus, ouais, à quelqu'un d'autre, moins efficacement si vous êtes vacciné comparé à quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui est infecté, mais vous pouvez quand même le transmettre. Donc, le masque, il reste utile, et quand vous êtes dans des lieux fermés, on sait aujourd'hui qu'il y a, ouais, cette transmission via les aérosols qui rend le masque utile.
Vous parliez de l'efficacité sur le temps du vaccin. Est-ce qu'on aura à terme une troisième dose, un rappel, parce que pour certains c'est une quatrième dose et pour certains une deuxième dose, un rappel pour l'ensemble de la population? Aujourd'hui on appelle les plus de 65 ans à être de nouveau piqués, entre guillemets, une troisième dose. Est-ce qu'à terme ce sera le cas pour l'ensemble de la population, comme c'est le cas aujourd'hui en Israël? Alors que certains pays du Sud disent attendez, avant de revacciner votre population, envoyez-nous des doses, on en a besoin.
Voilà. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si cette troisième dose deviendrait utile pour l'ensemble de la population. Elle a été faite chez les plus de 65 ans du fait de leur vulnérabilité. Il y a des données la semaine dernière aux États-Unis qui laissaient entendre qu'à distance de la deuxième dose, même sur l'hospitalisation, pour les personnes âgées et fragiles, il y avait peut-être une baisse d'efficacité contre les formes sévères. Donc voilà, c'est ce qui justifie cette dose chez les plus de 65 ans. Pour l'instant, il n'y a pas d'argument pour la généraliser. On observe tout ce qui est en train de se passer en Israël, finalement, puisqu'ils ont proposé la troisième dose à l'ensemble de la population. On verra quel impact elle peut avoir. Après, il faut comprendre qu'on ne sait peut-être pas encore quel est le bon schéma vaccinal. C'est peut-être pas finalement des répétitions de rappels tous les 6 mois qui seront nécessaires. Il se pourrait que le bon schéma vaccinal, c'était vous avez votre vaccination initiale avec un écart de 3 semaines entre les deux doses, un rappel à 6 mois, et puis là, vous avez quelque chose qui va durer pendant longtemps. Peut-être que c'est ça le bon scénario, on ne le sait pas encore. Et donc, ce qui est fait actuellement en Israël, par exemple, va nous permettre d'avoir des informations qui seront éventuellement pertinentes pour nous. Se pose aussi la question du nombre de doses et de la vaccination de la planète, vous avez parfaitement raison. Là, ce n'est pas simplement un problème de doses, hein. C'est une logistique énorme qu'il faudrait mettre en place pour vacciner la planète. Ça me paraît extrêmement important, d'abord à titre d'équité, hein, par rapport à ces pays et aux populations vulnérables qui y
vivent. Pour éviter les nouveaux variants.
Pour éviter l'émergence des nouveaux variants. Mais ce n'est pas simplement une question de dose, ça sera aussi un effort colossal que l'on doit faire conjointement, parce que c'est quelque chose de très important.
Ce sera l'un des enjeux, l'un des débats des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup Arnaud Fontanet, vous membre du conseil scientifique, épidémiologiste, chercheur au CNAM et à l'Institut Pasteur de Paris, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On va marquer une petite pause et ensuite RTL Soir se poursuit. On va retourner dans le Gard. Vous le savez, c'est notre fil rouge ce soir. Toujours de disparus. 2 mois de pluie tombés en 3 heures seulement. On va aller rejoindre notre envoyé spécial sur place. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
18h34.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, c'est l'heure de refaire le point sur les grands titres de l'actu avec vous, Marion Calais.
Ils étaient plusieurs centaines dans la rue aujourd'hui à l'appel de la CGT Santé contre l'obligation vaccinale qui entre en vigueur demain. 300 000 professionnels de santé n'auraient pas reçu la moindre dose. Lyon comme Paris, la mairie écologiste annonce la généralisation du 30 km/h dans la ville au printemps prochain. Et puis Lille sur le terrain en Ligue des Champions ce soir face à Wolfsburg à partir de 21h et en fil rouge sur RTL.
Merci Marion, bonne soirée.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Et on revient maintenant à l'autre grand titre de l'actu ce soir, parce que c'est notre fil rouge. On y retourne, le Gard a les pieds dans l'eau. 2 mois de pluie tombée en 3 heures seulement aujourd'hui. Toujours 2 disparus. Étienne Baudion, on vous retrouve. Vous êtes à Uchaud. C'est vraiment la commune la plus sinistrée, la plus inondée. Ce soir, vous trouvez devant l'hôtel de ville.
Ah oui, avec des précipitations fortes et soudaines qui ont par exemple submergé le centre du village. C'est tout à fait inhabituel, m'ont dit tous les habitants rencontrés, tout comme l'autoroute A9, hein, qui elle-même a été submergée. Une vingtaine d'élitreuillages étaient nécessaires pour évacuer les conducteurs. Le lieutenant-colonel Jacques Pagès des sapeurs-pompiers du Gard.
Les étrayages, on les a fait sur les endroits où il y avait beaucoup de courant, où on ne pouvait pas engager des hommes dans l'eau pour pouvoir et surtout ressortir les victimes. Donc c'est à ces endroits-là qu'on privilégie les étrayages.
Et les sapeurs-pompiers, vous le disiez, vont eux aussi avoir les pieds dans l'eau car les ruissellements sont encore importants. Il y a des zones, des poches d'eau, comme ils disent, qu'il va falloir aller vérifier, savoir si dedans, faire des reconnaissances pour savoir s'il n'y a pas des personnes qui auraient disparu.
Les toutes dernières infos d'Étienne Baudu. Merci Étienne, depuis le terrain, depuis le Gard pour RTL. Peggy Broche, je reviens vers vous, vous notre spécialiste météo. Quelle situation dans les prochaines heures pour le Gard? La pluie va se poursuivre,
alors,
c'est ça?
C'est plus calme, mais on a encore de la pluie prévue cette nuit. Surtout, le Gard reste en vigilance orange aux orages, pluie, inondations et crues, puisqu'un nouvel épisode pluvieux-orageux est prévu pour demain matin. Et je rappelle que 11 autres départements sont actuellement en vigilance orange également, du Midi-Pyrénées au Massif Central.
Merci Peggy.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Allez, vous écoutez RTL Soir, 18h37, la suite dans un instant, c'est évidemment On défait le monde, vos 20 minutes de curiosité quotidienne, l'actu autrement avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Dans un instant, notamment, cette question, alors que le SPACE, le deuxième salon agricole de France, s'ouvre à côté de Rennes. Est-ce que nous allons bientôt manger de la viande qui n'est pas de la viande? Le futur, c'est juste après ça. Bon appétit à tous.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.